Europe 1, il est 8h, 7h.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Voilà, j'étais déjà passé à l'heure d'hiver, semble-t-il. Le journal et les titres ce matin, la défaillance du renseignement français dans l'affaire de la vente des sous-marins aux Australiens. Plusieurs indices montrent que les services secrets n'ont pas vu le vent tourner. Il pleut des milliards. Le gouvernement présente ce matin son dernier projet de loi de finances du quinquennat. La fin du quoi qu'il en coûte est actée, mais le carnet de chèques est visiblement de sortie. 11 milliards d'euros de dépenses supplémentaires au programme. Et puis la sortie du nouveau livre de Nicolas Sarkozy, son titre « Promenade ». Au pluriel, il n'est pas question de politique mais de culture. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Paris ne se remet pas de ce qu'il faut bien appeler la trahison du siècle. Si le président Macron reste étrangement silencieux, le ministre Jean-Yves Le Drian répète qu'il s'agit d'un coup de poignard dans le dos. Mais certains indices montrent qu'il se tramait quelque chose et pourtant, les services de renseignement français n'ont rien vu venir. Jean-Sébastien Soldaini.
S'il n'y a pas eu faille, il y a au moins eu aveuglement. Comment passer à côté des informations parues dans la presse australienne, celles de journalistes spécialistes défense qui relaient les préoccupations de leur premier ministre. Retard dans le programme, budget dépassé à un point tel qu'au mois de juin dernier, le plus haut fonctionnaire en charge du dossier évoque un plan B devant une commission du Sénat. Les mots sont clairs. Il est prudent d'envisager des solutions alternatives si nous ne sommes pas en mesure de poursuivre le projet. Quoi de plus limpide? Une mise en garde en bonne et due forme. Pourtant, cela n'allume aucune lumière rouge à l'ambassade de France ou bien dans les services de renseignement. Viennent ensuite des signaux plus faibles qui, eux aussi, auraient dû alerter. Les réponses évasives du Premier ministre australien, ses silences lors de conférences de presse communes. Rien ne semble déclencher de réaction. Un excès de confiance sûrement vis-à-vis d'un allié fiable, le fait que jamais une telle manœuvre n'a été tentée, certainement, mais aussi et surtout la façon de faire du renseignement français. La quasi-totalité des moyens est mise sur nos ennemis, pas sur nos amis, et à ce titre, Canberra n'est certainement pas un nid d'espions.
Jean-Sébastien Soldaini, le président Emmanuel Macron s'entretiendra par téléphone avec Joe Biden avant la fin de la semaine. C'est ce que fait savoir un conseiller de l'Élysée.
C'est long à organiser ce rendez-vous avec le président des États-Unis. Un dernier pour la route. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi de finances pour 2022, le dernier du quinquennat, et il ne regardera pas trop à la dépense cette année encore.
L'exécutif anticipe une croissance du PIB de 4,8% l'an prochain. S'il acte la fin du quoi qu'il en coûte, il n'a pas rangé le carnet de chèques pour autant. Plus de 11 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. De quoi faire bondir la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée. Valérie Ravaud dénonce le budget d'un président déjà en campagne.
Lorsqu'on somme toutes les annonces du président de la République et du gouvernement depuis 15 jours, on arrive à 40 milliards d'euros. Comment ces annonces vont-elles être financées? Jusqu'à présent, le gouvernement a tout fait reposer sur la dette, en remettant à plus tard la question du financement. La seule piste qu'il a évoquée, c'est une réforme des retraites que nous combattons. Et cette réforme, il veut l'utiliser pour financer un certain nombre de ses dépenses. Donc nous sommes contre la réforme des retraites qu'il a évoquée. La deuxième question qui se pose, c'est le timing. Est-ce que ces annonces correspondent à des promesses électorales ou est-ce que ça entre dans la campagne électorale? Eh bien, nous disons oui, puisque pour un certain nombre d'entre elles, nous les avions formulées depuis 4 ans, qu'elles ont toujours été balayées par la majorité et le gouvernement. Et tout d'un coup, ils leur découvrent quelques vertus. Donc effectivement, le timing nous interroge.
Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée avec Alexis Delafontaine, le gouvernement qui annonce par ailleurs qu'il va prendre en charge, à sa charge, le RSA en Seine-Saint-Denis. Le département est confronté à une explosion de la pauvreté et ne peut plus assumer seul le versement du revenu de solidarité active. Sa gestion avait été transférée aux collectivités locales en 2004.
Avant le Conseil des ministres, ce matin, il y aura un Conseil de défense sanitaire.
L'exécutif observera notamment la courbe des contaminations et prendra peut-être la décision de lever le pass sanitaire dans certains départements les moins touchés par l'épidémie. Mais il faudra être prêt à le réinstaurer à la moindre alerte, prévient le professeur et membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet.
Ouais, il dit s'attendre à un regain de l'épidémie au mois de novembre ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien, Arnaud Fontanet. On les appelle les licornes, elles tiennent plutôt du pur sang. Aujourd'hui, 2 start-up françaises réalisent des levées de fonds historiques.
Plus d'un milliard de dollars récoltés en 24 heures pour 2 champions de la French Tech et 700 millions pour Sorare, entreprise spécialisée dans les cartes virtuelles de football avec un certain Antoine Griezmann parmi les investisseurs, et 555 millions pour Miracle, spécialisé dans les places de marché. Et pour Philippe Corot, son fondateur, il n'y a pas de mystère. L'entreprise profite à plein de la numérisation de l'économie.
La crise est un accélérateur parce que
En fait, les périodes de confinement ont créé des nouveaux besoins chez les clients, des besoins de consommation différents, donc déjà en utilisant l'e-commerce, et aussi des nouveaux besoins dans des nouveaux types de produits. Quand on a beaucoup parlé de home office, on a beaucoup parlé du sport à la maison, etc. Tous les acteurs industriels qui n'avaient pas ce business model de plateforme qui leur permettait d'être plus agiles, ils sont retrouvés embêtés, donc ça les a fait réagir. Donc ceux-là, ils sont allés rapidement et ça a créé une forte traction sur le marché des marketplaces.
Philippe Corot, fondateur de Miracle, avec Emmanuel Duteil.
Plus d'un milliard de dollars récoltés en 24 heures. Alors évidemment, ces chiffres sont stratosphériques, mais derrière ces grosses annonces, il y a tout de même une réalité. On voit ça avec vous, Emmanuel Duteil, bonjour.
Bonjour.
Alors ce sont rarement des fonds français qui investissent dans ces startups tricolores.
Vous avez raison, hein, chez Sorare, c'est le japonais SoftBank qui mène le tour de table. Chez Miracle, c'est le fonds Silver Lake, une des stars de la Silicon Valley. Alors, il y a bien quelques Français au capital de ces entreprises, Xavier Niel, Euraseo, le footballeur Antoine Griezmann ou le philanthrope Alexandre Mars, par exemple, chez Sorare. On trouve souvent aussi la BPI dans les tours de table. Mais voilà, on manque en France de gros fonds capables d'investir d'un coup des centaines de millions d'euros. Pour ces opérations, ce sont les étrangers, surtout les Américains, qui sont à la manœuvre. Comme le marché est saturé aux États-Unis, ils viennent miser sur les pépites françaises et européennes, m'a confié un gros investisseur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des fonds, la plupart de nos pépites gardent leurs sièges sociaux en France. Et même si toutes s'inquiètent du même problème, la difficulté à recruter chez nous les profils recherchés, ça reste malgré tout chez nous encore plus simple d'embaucher qu'aux États-Unis.
Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1.
Ce n'est plus une start-up mais un géant menacé de faillite. Le promoteur immobilier chinois Evergrande assure qu'il pourra rembourser une partie de ses dettes. L'entreprise accuse un passif de 260 milliards d'euros. On ne sait toujours pas ce que compte faire Pékin, sauver ou laisser périr le groupe. En Australie, un séisme de magnitude 5,9 a fait trembler Melbourne cette nuit et semer la panique dans la deuxième ville du pays. Pas de victimes et peu de dégâts selon un premier bilan.
Enfin, partons en promenade pour terminer ce journal. Nicolas Sarkozy publie un nouveau livre, mais promis, il ne parle pas de politique.
Eh bien non, il ne parle pas non plus de ses souvenirs d'ex-président. Promenade au pluriel, c'est important. Eh bien, c'est le titre de ce livre consacré à la culture, Nicolas Caro.
Dis-moi ce que tu aimes, je te dirai qui tu es. C'est un peu la démarche de Nicolas Sarkozy dans ce livre en forme d'autobiographie par la culture. Il s'ouvre sur son grand-père qui lui transmet sa passion pour la philatélie. Il découvre l'art par cette petite fenêtre grâce aux timbres qui reproduisent les tableaux de maîtres comme le douanier Rousseau, Delacroix ou Cézanne et ses joueurs de cartes, son tableau préféré. Il évoque le cinéma, les écrivains, les photographes. Il s'enthousiasme pour certains, avoue des réticences pour d'autres comme Vasarely par exemple, tout en rappelant qu'on peut ne pas apprécier une œuvre, mais considérer ses auteurs comme de grands artistes malgré tout. La princesse de Clèves passe par là, l'ancien président en revient sur la polémique, confesse une maladresse de sa part, même si, écrit-il, il n'y a aucun sacrilège à affirmer que l'on n'a pas aimé un livre. Il parle de son rapport à la culture pendant les 70 premières pages, les 200 suivantes sont consacrées à des reproductions, des manuscrits, des tableaux, des photographies, une flânerie dans le musée imaginaire et idéal de Nicolas Sarkozy.
La promenade de Nicolas Sarkozy aux éditions Herscher, sorti aujourd'hui.
Merci Christophe Lamar. Vous revenez tout à l'heure à 8h30.